Parabole des dix vierges. Si le cœur du croyant ne le fait pas lui-même suffisamment, l'enseignement de l'Église aura à interpréter les paraboles. Quand je dis l'enseignement de l'Église, je veux dire l'enseignement par voie de ministère. N'est-ce pas ? Interpréter, ce sera chercher consciencieusement, avec vérité, avec esprit de prière, à saisir toute la pensée du Seigneur. Nous avons la pensée de Christ, dit Paul. À saisir toute la pensée du Seigneur et à en explorer la portée, l'étendue. Une certaine pensée, n'est-ce pas, s'étend à certains objets ou à certaines circonstances, et il faut savoir reconnaître cela. Et bien entendu, cette interprétation consciencieuse qui tend à rechercher la pensée que le Seigneur a mise dans sa parole, cela se fera sans y mêler notre propre pensée et sans y introduire d'éléments étrangers. Et ça, surtout, ne pas introduire de choses étrangères. Quelqu'un, par exemple, n'est-ce pas, verra qu'il est question d'une couleur verte quelque part, enfin j'ai lu ça, enfin on dira, ben, le vert c'est l'espérance. Alors on interprète avec ça, n'est-ce pas, c'est un élément de notre, peut-être, disons, notre culture moderne, n'est-ce pas. Ça n'a rien à voir, c'est un élément qu'on ne peut pas introduire ou on fausse, n'est-ce pas. Évidemment, le texte biblique... Il ne faut donc introduire aucun élément étranger. Pour interpréter comme convenablement, par conséquent, il faut un effort de foi. Il faut une foi. Ça, le manque de foi ou l'insuffisance de foi sera un obstacle. Un obstacle majeur pour toute la parole, si bien les autres passages que les paraboles, n'est-ce pas ? Un effort de foi est donc indispensable. L'intelligence et la sagesse spirituelle dont parle Paul dans Colossiens 1, intelligence et sagesse spirituelle, qui, nous le savons, par Job, notamment, viennent d'en haut, n'est-ce pas, sont un apport de l'Esprit du Seigneur. La sagesse est un apport. Alors, cette sagesse, en réponse à la foi, va être la capacité à utiliser, la seule capacité. Il ne s'agit pas d'une sagacité d'esprit humain, il s'agit d'utiliser une capacité spirituelle. Et c'est ce que veut dire le Seigneur, il l'a pourtant bien souligné, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il faut avoir des oreilles spirituelles pour entendre un langage que Paul qualifie de spirituel. Hein? Alors, si on interprète les paraboles, moi je les ai vues, c'est-à-dire par lecture, ou entendu, interprété des gens qui étaient en dehors de tout ministère chrétien, hein, par exemple des littéraires. Hein. J'ai entendu notamment un jeune agrégé de lettres interpréter certains passages de la Bible, n'est-ce pas, extérieurement. Il y a de l'habileté, il y a du savoir, mais le résultat est faux. Entièrement faux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus a lui-même interprété deux de ses paraboles, c'est-à-dire le semeur, un semeur sorti pour semer. Et aussi l'ivraie parmi le blé. L'ivraie qui a été semée parmi le blé. Certaines autres paraboles sont d'interprétation aisée, d'autres moins, et d'autres, peu, enfin, quelques-unes, disons, d'interprétation très difficile. Il y a aussi quelques paraboles dont la portée ou l'application reste indéterminée. Il y a des paraboles dont la portée, l'application, si vous voulez, le champ d'application, reste indéterminé. Par exemple, la parabole de Matthieu 12, 43-45, Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Bon, que cela, n'est-ce pas, est une application contemporaine du Seigneur, c'est certain, n'est-ce pas? Mais n'empêche que cette parabole nous est livrée par l'Écriture sainte, elle nous concerne nous aussi, n'est-ce pas? Et nous pouvons dire que là, il y a un champ d'application qu'on ne peut pas circonscrire, n'est-ce pas? C'est excessivement difficile. Il faut prendre cette parabole et quand on en fait une application, le faire avec beaucoup de sagesse. De toute manière, toute parabole est intelligible dans son sens véritable. Il n'y a pas à dire, n'est-ce pas, comme certains ont voulu dire, bon, laissons ça, le sens s'en est perdu. Ah, ça, je ne marche pas. Toute parabole est intelligible, seulement, Pierre nous dit bien, il y a des choses difficiles à comprendre chez Paul, et il y en a aussi dans le langage, évidemment, du Seigneur Jésus. Il sera bon, si l'on veut guider la réflexion comme il convient, de saisir d'abord convenablement le sens littéral, c'est-à-dire le sens extérieur, la fiction qui est le support, puis de rechercher le sens interne ou la pensée divine sans aucunement s'éloigner de la fiction. Il faut que la fiction, c'est-à-dire le récit qui sert de support, nous soit bien connu littéralement. Il ne s'agit pas d'être étourdi ou de laisser de côté certaines choses, il faut bien le lire et bien le voir, bien se le représenter. Ceci est un travail, n'est-ce pas, évidemment, de base. Jésus, qui parlait pour des générations, des siècles, a eu manifestement pour soin d'éviter les particularités locales ou passagères. Et il a composé ses sujets fictifs au moyen de faits naturels, de faits constants ou de traits de la vie humaine qui ne varient pas. Pourtant, il devait tenir compte aussi du présent. Il avait beaucoup de choses à dire à la génération contemporaine, aux Juifs, n'est-ce pas? Beaucoup. Il devait donc tenir compte du présent. L'implantation de sa parole dans le présent, engageait l'avenir du christianisme. Et donc les Juifs devaient d'abord pouvoir recevoir et comprendre. Certains de leurs usages vont donc entrer dans la composition des paraboles sans être pour autant des difficultés majeures. Pas besoin de nous faire grand historien pour comprendre certaines choses. Il y en a qui exagèrent beaucoup à ce sujet-là. Il y a des choses à savoir et la parabole des dix vierges va nous en donner un exemple. Alors prenons cette parabole des dix vierges en Matthieu 25 et nous allons la lire. Matthieu 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Il y a là une base qui a été obtenue d'une coutume. Une coutume qui était en cours, en usage, dans le peuple juif du moment et qui est restée encore en usage après le commencement de notre ère. Alors, il faut connaître le sens littéral, avons-nous dit, n'est-ce pas ? La connaissance du sens littéral nécessite ici celle de la coutume sur laquelle le récit fictif est établi. Alors là, il est bon d'avoir un petit apport, n'est-ce pas, extérieur à la Bible, pour nous faire comprendre, pour que nous sachions quelle est cette coutume, qui est d'ailleurs bien connue. Voici comment se déroulait le grand jour des noces. Quand des noces devaient avoir lieu, un certain jour était fixé, n'est-ce pas? Et je passe ce qui se pouvait se dérouler dans le cours de la journée même des noces, mais la nuit étant venue, le futur époux, accompagné de ses amis, car s'il y a des vierges qui sont des amis de l'épouse, il y avait aussi, n'est-ce pas, des jeunes gens qui étaient les amis de l'époux. Alors, la nuit étant déjà venue, donc le futur époux, accompagné de ses amis, se rendait au domicile de l'épouse, la nuit étant venue, pour recevoir cette épouse, cette future épouse, celle qui allait à l'instant, ce jour-là, devenir son épouse, il la recevait des mains de son père. Ensuite, il conduisait l'épouse et tous les amis en cortège et en pompe au grand festin des noces, à la salle des noces, au festin des noces qui était préparé dans sa maison à lui, la maison de l'époux. Alors, la future épouse avait elle-même des amis, et ses amis s'appellent ici des vierges dans le sens tout simplement de jeunes filles. Il y avait des jeunes filles, on voit encore ça aujourd'hui, n'est-ce pas, des jeunes filles autour de l'épouse. Elle avait donc des amis, des jeunes filles qui alors avaient pour rôle, elles, de s'avancer à la rencontre de l'époux. C'étaient les jeunes filles, l'épouse restait à la maison, tant que son père ne l'avait pas remis à l'époux, elle restait là, elle ne pouvait pas sortir de la maison, n'est-ce pas, elle était en quelque sorte sous la garde encore de son père. Ah, et c'était donc les jeunes filles qui allaient au-devant de l'époux dans la nuit. Et c'est pourquoi il leur fallait des lampes. Alors, elles s'avancent à la rencontre de l'époux. Elles introduisaient, elles revenaient avec l'époux quand elles l'avaient rencontré. Elles l'introduisaient dans la maison de l'épouse. À ce moment-là, le père, alors, remettait sa fille à l'époux, solennellement. Et puis, un cortège se formait. Au sortir de la maison de l'épouse, un cortège se formait, on se mettait en marche à la lueur des torches, des lampes aussi, n'est-ce pas, des lampes dont notamment les amis, les jeunes filles, les amis de l'épouse avaient eu soin de se munir. Voilà, n'est-ce pas, en gros la coutume. Et alors on arrivait, le cortège arrivait dans la maison de l'époux, et c'est là que le festin, le grand festin était préparé, c'est là qu'était la salle des noces. Nous avons la même base dans le psaume 45. Je ne lirai pas tout le psaume 45, vous devez le connaître, c'est un psaume magnifique et merveilleux. Soit il parle prophétiquement du roi, « Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres », mais lisons particulièrement les versets 14 à 16. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissu d'or, elle est présentée au roi vêtu de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, elles entrent dans le palais du roi. Enfin, un peu plus haut, au verset 10, « Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite, parée d'or, d'ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. » Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi. Alors là, dans ce psaume 45, nous avons, n'est-ce pas, une référence à la même coutume, mais là, nous voyons particulièrement l'épouse qui est remise à l'époux. Alors que ici, dans la parabole des dix vierges, il n'est pas du tout question de l'épouse. N'est-ce pas, l'épouse est un élément que Jésus n'a pas eu à utiliser ici. Et nous avons simplement, dans la parabole, la sortie des jeunes filles, des vierges, n'est-ce pas, qui, avec leurs lampes, vont à la rencontre de l'époux. Ben, ça commence comme ça. Le royaume des cieux sera semblable, sera. Attention, c'est pour le futur, c'est pour la fin. C'est pas un présent, n'est-ce pas, c'est un futur. Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, à des jeunes filles, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Alors, elles vont à la rencontre de l'époux, et tout de suite, n'est-ce pas, dans la parabole intervient cette différenciation entre elles, n'est-ce pas, il y a deux groupes, cinq étaient folles et cinq sages. Et il nous est indiqué en quoi consiste la folie et en quoi consiste la sagesse. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors, les dix vierges sont donc différenciées en deux groupes. Et nous voyons que ce sont les éléments de la parabole. Nous voyons que l'époux tarde. Elles vont à sa rencontre, l'époux tarde. Alors, ces vierges, n'est-ce pas, s'assoupirent et s'endormirent. Si l'on suit bien, n'est-ce pas, le récit, on voit les vierges ayant pris leur lampe, alerte à la rencontre de l'époux. Donc, en principe, elles sortent de la maison de l'épouse et elles vont sur le chemin. Puis, elles vont sur le chemin, elles ne trouvent pas l'époux, elles ne vont pas aller trop loin, n'est-ce pas? Alors là, il faut penser qu'elles s'arrêtent quelque part en cours de route, n'est-ce pas? Et que peut-être dans une maison ou au bord du chemin, je ne sais, n'est-ce pas? Et c'est là, n'est-ce pas, que nous les voyons s'asseoir, peut-être, n'est-ce pas, s'assoupir et même s'endormir. Nous voyons aussi qu'il y a, comme élément de la parabole, une démarche désespérée des vierges folles, cinq vierges folles, une démarche désespérée pour se procurer de l'huile. Elles manquent d'huile. Nous voyons aussi que cette démarche les met en retard, qu'elles sont donc en retard, et que quand elles arrivent, la porte des noces est fermée, et nous avons aussi le refus de l'époux de les recevoir après la fermeture de la porte. Voilà, n'est-ce pas, les éléments importants de cette parabole. Les dix vierges et dix jeunes filles sont des amies de l'épouse, et la distinction en deux groupes, qui est indiquée dès le début du récit, n'est-ce pas, est donc une chose importante. Vous voyez, dès le début du récit, cinq sont folles et cinq sont sages, n'est-ce pas? Et l'on nous dit pourquoi. C'est indiqué dès le début du récit, alors que le fait qui distingue les folles des sages, le fait n'est pas apparu. Bah, le fait, en somme, il y a ceci au début, c'est que on ne peut pas, a priori, à moins d'être vraiment un observateur, n'est-ce pas, de regarder qu'il y en a certaines qui n'ont pas le petit vase d'huile, d'autres qui l'ont, mais a priori, n'est-ce pas, toutes arrivent, prêtes, semble-t-il, leurs lampes brûlent, n'est-ce pas, par conséquent, a priori, il n'y a pas de différence dans les dix vierges. La différence va se manifester en raison précisément de ce que cet élément que le Seigneur met dans la parabole, le retard de l'époux. La folie, c'était donc de n'avoir pas d'huile, pris d'huile en réserve, et la sagesse, c'était d'avoir eu soin de se munir d'un vase contenant une réserve d'huile. Si l'époux n'avait pas tardé, la folie n'aurait pas été pratiquement distinguée de la sagesse, car toutes les vierges auraient pu pénétrer dans la salle des noces, lampes encore allumées. Hein? S'il était venu plus tôt, les lampes s'éteignirent parce que l'époux avait tardé et que, entre-temps, tout le monde s'était endormi, un temps plus ou moins long, mais enfin, on s'était endormi donc parce que le retard était assez considérable, n'est-ce pas? Nous voyons la chose apparaître ainsi, et alors là, n'est-ce pas, l'huile des lampes s'épuise, mais il y en a certaines, ce sont les sages qui peuvent alimenter le réservoir de la lampe, tandis que les autres, n'est-ce pas, n'ayant pas de petites réserves, ne peuvent pas l'alimenter. Mais si l'époux n'avait pas tardé, s'il était venu au début, n'est-ce pas, les lampes auraient toutes brillé et tout le monde aurait pu entrer dans la salle des noces. C'est important de réfléchir à cela. Donc, si l'époux n'avait pas tardé, la folie des folles n'aurait pas été distinguée de la sagesse des sages. Vous voyez, n'est-ce pas? La folie n'aurait pas été distinguée de la sagesse, pratiquement. Hein. Évidemment, le Seigneur, lui, est observateur. Il aurait pu voir qu'il n'y avait pas la réserve. Mais, je vous l'ai toujours dit, le Seigneur veut rendre effectif le défaut qui se présente chez les hommes, l'incrédulité, le manque de vigilance. Il veut le rendre patent, effectif. Il y a donc ici, dans la parabole, un retard de l'époux qui rend patent, effectif, la folie des folles, par rapport à la sagesse des sages. Mais la parabole contient donc ce détail important, l'époux tarde, il tarde même beaucoup, puisque les vierges s'endorment. Et il arrive, nous est-il dit, voyez qu'il tarde beaucoup, il arrive au milieu de la nuit. Ce n'est plus le soir. En général, c'était le soir. La nuit venue, n'est-ce pas, c'était le soir. Mais là, au milieu de la nuit, arrive l'époux. Les folles n'avaient pas pensé à un retard éventuel aussi prolongé. Elles manquent d'huile pour la clarté de leur lampe. Elles n'avaient pas pensé à cela. Tout simplement, les folles n'avaient pas pensé à un pareil retard. Et parce qu'elles manquent d'huile, elles manquent l'entrée dans la salle des noces. Elles s'aperçoivent, lorsqu'on annonce l'époux, n'est-ce pas, à l'arrivée de l'époux, que leurs lampes s'éteignent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Remettez-vous en marche, n'est-ce pas, pour arriver vers lui, car l'époux devait les trouver en marche. C'est ainsi que le Seigneur veut nous trouver aussi, n'est-ce pas, en marche. L'époux devait donc les trouver en marche, alors remettez-vous en marche, n'est-ce pas, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Évidemment, n'est-ce pas, il faut moucher un peu la mèche, n'est-ce pas, préparer les lampes. Mais là, dans cette préparation, les sages sont tout à fait à l'aise, elles ont ce petit vase, elles s'aperçoivent que on a dormi assez longtemps et que l'huile s'est épuisée, mais elles en remettent tout de suite, n'est-ce pas? Et par conséquent, la flamme continue. Tandis que les folles, à ce moment-là, s'aperçoivent que le réservoir est vide, que la mèche commence à brûler un petit peu, n'est-ce pas? Et qu'elles n'ont plus d'huile, elles ne peuvent plus remplir le réservoir. Alors elles vont, n'est-ce pas, à ce moment-là, essayer de rattraper. Elles vont rattraper leur imprévoyance. Elles essaient de rattraper leur imprévoyance et de découvrir un moyen de parer à ce dommage, n'est-ce pas? Elles vont essayer d'y parer. Alors, premièrement, elles demandent aux sages de leur donner de leur huile. Voient bien que les sages, n'est-ce pas, là, elles s'aperçoivent ce qu'était la sagesse. Ben, elles voient que les sages ont un petit vase, alors donnez-nous de votre huile. Les sages refusent. Alors, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont vraiment, n'est-ce pas, des moralistes merveilleux, et qui ont pu dire ou écrire que les vierges sages, toutes sages qu'elles étaient, n'étaient pas charitables, parce qu'elles auraient dû, n'est-ce pas, concéder un petit peu de leur huile aux folles, il s'agissait d'un petit moment, n'est-ce pas, elles auraient pu partager, n'est-ce pas, vous savez qui dit cela, n'est-ce pas, je l'ai entendu, chers amis, oh, à la radio, dans la prédication, le sermon, d'un pasteur protestant. On aime beaucoup la charité aujourd'hui, mais on ne comprend rien de rien, n'est-ce pas, à ce qui est spirituel. Non, elles ne peuvent pas partager. Elles sont sages encore en ceci qu'elles ne peuvent pas partager. Car les sages, n'est-ce pas, ne peuvent pas partager ce qui est juste, nécessaire. Et ce qu'elles ont personnellement, elles ne peuvent pas le partager. Il ne s'agit pas d'introduire une notion factice de charité. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on a que ça dans l'idée charité, 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 on ne sait pas ce que c'est que la charité. Alors là, n'est-ce pas, c'est juste nécessaire, la démarche des folles à l'égard des sages et ne peut pas, n'est-ce pas, évidemment, leur procurer de l'huile. Alors, en deuxième tentative, elles s'en vont dans le village, les sages leur disent, écoutez, il n'y a qu'un moyen, allez, tentez d'aller en chercher, vous n'en avez pas, ben, il y a un village ici, il y a des gens qui en vendent, et même au cours de la nuit, vous pourrez trouver quelqu'un qui voudra bien vous vendre un peu d'huile. Alors, elles s'en vont dans le village, à la recherche de l'huile, mais cela demande du temps, il y a un déplacement, il faut chercher, n'est-ce pas, parmi ces gens qui dorment dans le village, quelqu'un qui veuille bien vendre de l'huile en pleine nuit, elles viennent en acheter. Mais cela va les mettre, évidemment, gravement en retard. Cela va leur donner un grave retard. On peut dire qu'en définitive, donc, les efforts du dernier moment sont inutiles. Le rattrapage du défaut de sagesse, n'est-ce pas, le rattrapage final, au moment où l'époux est annoncé, est impossible. Le rattrapage final est impossible, il n'y a point d'expédient auquel on puisse recourir pour compenser son défaut de sagesse et de vigilance par conséquent, puisque c'est ça qui est en cause. Les efforts du dernier moment, la tentative de rattrapage final, ne permettent pas de garder la place de vierge admise en temps utile dans la salle des noces. Ceci étant dit, nous avons fait le travail de défrichement nécessaire, le travail de clarification nécessaire, n'est-ce pas ? Nous avons fait la réflexion suffisante et nous pouvons maintenant nous dire, bon, alors, que veut me dire le Seigneur par l'intermédiaire de cette parabole ? Est-ce qu'il faut que maintenant j'interprète encore cette parabole ou ai-je simplement un avertissement, une leçon à en retirer? Eh bien, l'interprétation de la parabole est maintenant terminée. Ce que nous venons de faire est suffisant. L'interprétation de la parabole est terminée. Sans quoi, nous ne tiendrions pas compte qu'il s'agit d'une parabole. C'est terminé et il s'agit maintenant d'en recueillir la leçon, c'est-à-dire le fruit. Or, cette leçon est un avertissement. Et je vous ai dit, toute parabole, n'est-ce pas, tend vers une vérité à mettre en lumière, une leçon à donner, à délivrer, n'est-ce pas, une seule chose. Et la chose, le Seigneur l'a dit dans le verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et l'encadrement de la parabole des dix vierges, d'ailleurs, est encore celui-là, n'est-ce pas, le Seigneur, là, dans les derniers temps de sa présence parmi les apôtres, est en train, précisément, de les inciter à la vigilance. Alors, l'interprétation est donc faite, il s'agit seulement de recueillir la leçon. Cette leçon, disons-nous, est un avertissement. Le Seigneur n'entend pas dire autre chose que ce qu'il y a dans le verset 13. c'est-à-dire veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il n'entend pas dire autre chose. S'il y avait eu autre chose, il l'aurait mis, souligné par un mot, n'est-ce pas? Sa conclusion aurait été plus importante, différente. Le Seigneur Jésus, donc, ne dit pas autre chose. La parabole a pour objet d'appuyer sur ce conseil essentiel de veiller. Elle a pour objet de nous inciter avec force à veiller. Car à défaut de vigilance, nous pourrions aussi nous entendre dire « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas ». Alors, comment? Vous voyez, je dis l'interprétation est terminée. Bon, mais ce qui n'est pas terminé, c'est la méditation sur la parabole. Et cette méditation, elle va avoir pour objet de rechercher une application personnelle de la parabole, une application personnelle de l'avertissement que délivre la parabole. Alors, premièrement, n'est-ce pas, le chrétien va devoir, s'il veut bien méditer, il va devoir se dire ceci, veillez, veillez donc. Mais que veut dire veiller? Ah, le Seigneur me demande de veiller, mais est-ce que je sais ce que cela veut dire? Vous voyez, au lieu d'aller chercher les dix vierges, les marchands d'huile, etc., n'est-ce pas? Ce qui est sage, ce qui est raisonnable, le Seigneur m'incite à veiller, mais que veut dire veiller? Alors, si, n'est-ce pas, je suis un chrétien conscient de la nécessité de faire profit de toute la parole de Dieu, je vais tout de suite m'apercevoir que l'Ancien Testament et les psaumes proposaient déjà à Israël la vigilance pour le maintien de la vie. Ah, ça c'est une chose que je ne dois pas ignorer si j'arrive à Matthieu 25, n'est-ce pas, et que je ne suis pas aperçu que dans l'Ancien Testament il y avait déjà de fortes recommandations à la vigilance pour Israël, c'est-à-dire pour nous aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, alors là, n'est-ce pas, je serai déjà désarmé, je ne serai pas armé suffisamment. Alors, je ne vais pas vous en citer beaucoup, mais simplement deux. Le psaume 50, par exemple. Le psaume 50, verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Alors, mettons une négation. À celui qui ne veille pas sur sa voie, je ne ferai pas voir le salut de Dieu. Ça me paraît assez logique, n'est-ce pas? Celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie. Ça fait un tout, ça, n'est-ce pas? Vous voyez, donc, pour veiller, il va falloir que j'offre des sacrifices d'action de grâce, et il va falloir que je veille sur ma voie. Il va falloir que je sois dans l'adoration du Seigneur. C'est ça, offrir des actions de grâce. Dans l'adoration, dans la contemplation de Jésus, dans l'adoration, je suis un adorateur en esprit, en vérité. Et il va falloir aussi que je veille sur ma voie. Alors, Dieu me fera voir son salut. Dieu me fera entrer dans la salle des noces. Si je lis Proverbe 19, 16, « Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. » Mourra. Ah, mes amis, croyez que Dieu a dit ça, lui qui ne change pas. Le même, hier, aujourd'hui, éternellement, vous croyez que ces paroles-là sont passées? Pas du tout. Celui qui garde ce qui est commandé. Et nous entendons le Seigneur dire, « Gardez mes paroles, celui qui garde mes paroles, c'est celui qui m'aime. » Ah, gardez ma parole. Voilà une autre incitation, n'est-ce pas? Et puis alors, celui qui garde ce qui est commandé, les commandements du Seigneur, garde son âme. Voilà quelqu'un qui est vigilant. Il garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie, toujours la même chose, n'est-ce pas? Garder les commandements de Dieu, veiller sur sa voie. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Alors, je ne veux pas aller plus loin, mais je dis, n'est-ce pas, que tout chrétien doit savoir ça, et doit savoir aussi que dans le Nouveau Testament, toute exhortation, toute exhortation à l'adresse des enfants de Dieu repose sur, je vais employer différents termes, la continuité de la vie chrétienne par la foi, la marche en avant, la persévérance, la vigilance, la lutte contre la négligence. Et Jésus a mis sur ces recommandations un accent particulier. Toute exhortation tend à ça. Il n'y a pas d'exhortation valable et vraiment l'expression de la parole de Dieu qui ne contienne cet élément de persévérer dans la foi. Ce ne serait pas une exhortation. Et chers amis, si je vous dis, par exemple, n'est-ce pas, soyez des disciples, bon, et si je dis, eh bien, vous êtes des disciples, c'est très bien, tout est parfait, c'est bien, vous n'avez pas à vous soucier, attendez le jour, faites... Eh bien, je dis une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Je dis une parole fausse. Toute exhortation, quelle qu'elle soit, contient un élément pressant. Le chrétien a persévéré à être vigilant. Ça, c'est la note dominante, la marque de toute véritable exhortation. Ce n'est pas la peine d'exhorter. C'est ça, pour dire aux gens, pas aux chrétiens, ne bougez pas. Vous n'avez rien à faire, n'est-ce pas ? Vous n'avez qu'à rester tranquille, attendre le jour. Non, toute exhortation est un mouvement en avant, un mouvement en avant. N'est-ce pas ? Et surtout, le maintien. Demeurez, conserve-toi pur. Gardez ce que vous avez reçu. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. N'est-ce pas ? Voyez, toujours un mouvement de persévérance. Et la persévérance, Paul, dans les Romains, nous en parle, n'est-ce pas ? Avec force, cette espérance. Les Hébreux nous en parlent aussi comme une ancre de l'âme. Qui est là-bas, jeté dans le lieu très saint, n'est-ce pas ? L'espérance. Espérance qui va avec la patience, qui va avec la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Toute exhortation doit contenir un élément d'incitation à durer, à continuer, à marcher de mieux en mieux, de progrès en progrès. Donc, n'est-ce pas ? À aller en avant. Et tout ça, ça comprend, ça peut se résumer d'un mot, n'est-ce pas, vigilance. Ou de deux mots, si l'on veut, vigilance et sobriété. Parce que sobriété, n'est-ce pas, un sens dans le grec qui est celui d'une attente. L'attente. Le Seigneur Jésus a dit par exemple ceci, je le dis à tous, veillez. Dans Marc 13, 37. Il a dit aussi, veillez et priez en tout temps. Luc 21, 36. Et il a dit alors, là, n'est-ce pas, quand il s'agissait de l'Apocalypse, c'est-à-dire, n'est-ce pas, les dernières paroles, le 66e livre, hein, alors là, n'est-ce pas, c'était les dernières paroles qu'allait prononcer le Seigneur Jésus ou qui allait venir de lui par Jean, n'est-ce pas. Et alors, il est dit dans Apocalypse 3, 3, c'est dit à une église, l'église de Sardes. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est Christ qui parle, ses amis, à l'église. Au chapitre 16, alors nous arrivons là, presque tout à fait à la dernière page, il ne va plus y avoir grand-chose, n'est-ce pas ? Et la Bible arrive à son point final. Eh bien, Apocalypse chapitre 16 et verset 15, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Les vêtements, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le revêtement de Christ. Donc, nous répondons à la question... qui est celle-ci, je le rappelle, comment le chrétien va-t-il s'appliquer la parabole ? Eh bien, il y a donc déjà cela, et deuxièmement, nous pouvons dire que la parabole a manifestement une intention d'action topique. Vous savez pas ce que c'est qu'un topique ? Eh bien, il y a des étudiants en médecine qui pourraient vous le dire, n'est-ce pas ? Un topique, hein ? C'est une médication, si vous voulez, n'est-ce pas, qui cherche à déterminer quelque part sur le corps, dans l'organisme, ça, une action très forte. Là, n'est-ce pas, c'est une action véritablement topique. La parabole veut agir fort. Elle veut agir fort. Fort. Et il ne faut pas lui enlever sa force. Le Seigneur l'a mis, cette force. Elles sont là, n'est-ce pas? Elle veut agir fort sur l'esprit du chrétien pour qu'il réalise le danger de la non-vigilance. Il y a un danger certain de la non-vigilance. Et quand les vierges folles, n'est-ce pas, viennent, eh bien le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Vous avez beau taper, tambouriner à la porte, je ne vous connais pas. Et bon, si on ôte ça de la parabole, si on amoindrit ça, chers amis, ben c'est fini. L'enseignement du Seigneur est dérouté, n'est-ce pas, de sa destination. Alors, donc, c'est un effet topique. Alors, je dois me dire, n'est-ce pas, si je suis le chrétien qui veut s'appliquer la parabole, je dois me dire devant le Seigneur, selon que je veillerai ou que je ne veillerai pas, je prendrai ou bien la position d'une vierge sage si je veille, d'une vierge folle si je ne veille pas, et dans ce dernier cas, n'est-ce pas, si j'ai pris la position d'une vierge folle, en laissant aller les choses, dans ce dernier cas, ma négligence ne pourra pas être réparée au dernier moment. Elle ne pourra pas être compensée à l'ultime moment. Quand l'épouse sera là, j'aurai beau demander, implorer, n'est-ce pas, faire appel à la charité des autres, n'est-ce pas, me démener, je manquerai l'entrée dans la salle des noces. Voilà ce que je dois me dire, si je veux vraiment m'appliquer la parabole. Troisièmement, par conséquent, le Seigneur m'enjoint de veiller avec soin à ce que j'ai à faire. Il m'enjoint de ne pas négliger, hein, d'avoir, il l'a dit ailleurs, les reins sains et ma lampe allumée. Luc 12, 35. Ayez vos reins sains, la ceinture bien serrée à vos reins, ayez vos reins sains et votre lampe allumée, vos lampes allumées. Voilà l'attitude que le Seigneur a prescrite pour ses enfants, ses disciples. Si je ne me suis pas assuré que ma lampe est susceptible de briller jusque dans la salle des noces, n'est-ce pas, risquant de s'éteindre avant coup, ben, je n'ai pas veillé. Mais si j'ai veillé, alors j'aurai en effet ma lampe allumée, et ma lampe sera allumée de telle manière qu'à tout moment, n'est-ce pas, le Seigneur peut venir, il peut tarder, peu m'importe, j'ai ma lampe allumée, j'ai de quoi l'alimenter, elle brille, n'est-ce pas, elle brillera jusqu'au bout, parce que je veille, parce que je suis dans la vigilance. Quatrièmement, ai-je à m'attacher particulièrement à l'huile? Ah, l'huile, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il y en a, n'est-ce pas, qui, évidemment, tout de suite, sur les paraboles, sautent sur les détails. Je vous ai dit que les détails étaient là pour renforcer l'idée générale, la leçon générale, mais que se saisir des détails, puis laisser le principal, et puis se saisir des détails pour souvent, n'est-ce pas, y attacher des interprétations diverses, n'est-ce pas, c'est faire un travail absolument vain, en dehors, n'est-ce pas, du sens de la parole. Alors, ai-je à m'attacher particulièrement à l'huile? Alors, je veux répondre à ça parce que je sais que c'est le souci de quelques-uns. Et si je risque, si je m'attache du moins aux détails de la parabole, je risque d'en amoindrir le fruit en moi. Et le fruit, nous l'avons dit, c'est veiller. Toutes les lampes étaient autrefois à huile, disons-le nous, n'est-ce pas? Donc, en parlant, en empruntant cette image d'un jour de noces, en parlant des lampes, lampes qui a été constamment dans l'enseignement biblique et dans l'enseignement du Seigneur, j'ai rappelé, n'est-ce pas, les reins, ayez vos reins sains et votre lampe allumée. La lampe a toujours été, n'est-ce pas, l'image précisément de la vigilance par l'esprit. Alors, en parlant de lampe, Jésus est amené à parler d'huile, bien sûr, n'est-ce pas? D'autre part, l'huile, me dira-t-on, évoque tellement l'onction. Et l'onction évoque le Saint-Esprit. Mais ici, il ne s'agit pas de s'emballer, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'être d'interpréter les Écritures avec des clichés. C'est la réflexion de notre cœur qui est sollicitée. Ici, il ne s'agit pas d'huile répandue en onction. Il ne s'agit pas d'une huile qui est répandue en onction. Il s'agit d'une huile qui alimente la lampe, qui alimente les lampes. Comme autrefois, n'est-ce pas, dans le temple, il y avait des petits vases d'huile qui alimentaient le chandelier ou le candélabre à cette branche. Et même dans Zacharie 4, n'est-ce pas, nous voyons un certain candélabre magnifique, n'est-ce pas, avec deux conduits qui amènent l'huile. Et l'huile, dans cette vision du chapitre 4 de Zacharie, l'huile qui alimente les sept lampes, il y a deux conduits, il y a deux rameaux d'olivier, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur l'Éternel, c'est là, dans le moment, le souverain sacrificateur et le roi. La fonction de souverain sacrificateur, la fonction royale. C'est ça, à ce moment-là, n'est-ce pas? Ces deux fonctions sont, évidemment, n'est-ce pas, exercées par le soutien, par l'alimentation de l'huile qui alimente les lampes. Alors, évidemment, n'est-ce pas, je le redis, l'huile évoque l'onction et l'onction évoque le Saint-Esprit. Mais ici, il s'agit, n'est-ce pas, non pas d'une huile répandue sur la barbe d'Aaron, mais d'une huile alimentant ma lampe. Donc, si ça, c'est ma lampe qui est en cause, n'est-ce pas, ma lampe ne peut pas briller avec autre chose qu'avec de l'huile. Elle ne peut pas être alimentée autrement, n'est-ce pas, c'est dans l'image constante, cela. Bon, c'est ma lampe qui importe, donc c'est ma ferveur. Donc c'est mon amour, donc c'est ma vie intérieure, nous en avons parlé, ma vie intérieure que l'esprit alimente. Veillez, c'est donc par toutes les voies de la piété, maintenir en moi l'ardeur et l'amour. C'est cela, n'est-ce pas? Et quand je parle d'amour, je parlerai bien entendu d'accomplissement des commandements du Seigneur et de garder sa parole, c'est implicite, n'est-ce pas? Demeurez dans mon amour, voilà, et demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Demeurez dans mon amour, maintenez-vous là. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. Je retiendrai donc dans mon cœur l'espérance du retour du Seigneur. J'aimerai son avènement. Je retiendrai en moi la parole prophétique. La parole prophétique, j'en ai besoin. Si la parole de Dieu s'écarte, s'éloigne de mon cœur, chers amis, je ne peux pas veiller comme il faut. Si je ne suis pas celui qui se nourrit constamment de la parole de Dieu, comment serais-je vraiment un vigilant, un de ces vigilants que veut le Seigneur? Lisez 2 Pierre 1:19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voyez, n'est-ce pas, que la parole prophétique ici est comparée même à une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, et que le Seigneur Jésus vienne, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, voilà ce que la lampe veut me dire. Cinquièmement, ai-je à désigner les deux catégories, les deux groupes, vierge sage et vierge folle? Je réponds là, n'est-ce pas, à un travers qui s'est présenté tant de fois, n'est-ce pas, et même chez des grands interprètes, n'est-ce pas, ah, qui sont les vierges folles? Ah, qui sont les vierges folles? Oh, c'est ceux-là, là-bas. Oh, cette secte-là, ça c'est dans les vierges folles. Et puis, quelqu'un dira, les vierges folles, c'est les inconvertis. Les vierges sages, c'est les convertis. Alors, si je dis c'est nous, je dis, chers amis, ne vous souciez pas de la parabole des 10 vierges, parce que vous allez tous partir, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, n'est-ce pas, vous êtes tous, et alors je vais détruire l'injonction du Seigneur, veillez et priez en tout temps, afin que vous paraissiez debout quand le Fils de l'homme viendra. Je vais détruire cela. Et ai-je le droit de détruire, moi, la parole de Dieu, pour faire plaisir, pour vous mettre du baume? Chers amis, si je veux vous faire du bien avec la parole de Dieu, faut que je laisse la parole de Dieu avec tous ses angles, avec ses topiques. Et si c'est un topic qui me fait un petit peu, n'est-ce pas, sursauter, si c'est un cataplasme avec une farine de moutarde un peu trop agissante, n'est-ce pas, et qui me fait crier, eh bien, tant mieux, j'en ai besoin du cataplasme. C'est ça qui guérit, n'est-ce pas? Alors, ai-je à désigner les catégories de vierges sages et de sœurs? Mais absolument pas. Bah, je vous l'ai dit, que moi, je fasse ce que font les vierges sages, et que j'évite ce que font les vierges folles. Voilà ce que m'a dit Seigneur. J'ai pas de catégorie à faire. Je n'ai pas de catégorie à faire. Je n'ai pas non plus, n'est-ce pas, à aller au-devant de toutes sortes de discussions, de disputes de mots, comme j'en ai entendu, de controverses, n'est-ce pas? Alors, que vont faire les vierges folles, puisque la porte est fermée? Alors, n'est-ce pas, d'aucuns, comme je vous l'ai dit, disent, c'est des inconvertis, puisqu'elles ne rentrent pas. C'est des inconvertis. Mais comment se fait-il que ces inconvertis, c'était là, en tant que jeune fille accompagnant l'épouse, comment se fait-il qu'elles avaient une lampe, comment se fait-il qu'elles attendaient l'époux, elles aussi, n'est-ce pas, j'ai jamais vu les inconvertis attendre l'époux, moi, jamais vu ça. Bon, alors, je ne sais pas, n'est-ce pas, on tombe devant un tas de choses, n'est-ce pas, invraisemblables. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des catégories. Il nous a dit, toi, tu vois ce que fait la Vierge folle, ben, elle ne le fait pas. Et toi, tu vois ce que fait la Vierge sage, fais cela. C'est tout. N'est-ce pas? C'est tout ce que nous dit. Je vous dis, c'est un topi. Que je sois une Vierge sage et non une folle, voilà ce que le Seigneur me dit, c'est tout l'essentiel. Et sixièmement, n'est-ce pas, nous pouvons dire que le retour du Seigneur est à la fois proche et tardif, et que c'est peut-être à cela que je verrai si je suis maintenant en préparation d'être une vierge folle ou en préparation d'être une vierge sage. Et peut-être à cette distinction-là. Parce que, chers amis, le Seigneur peut tarder. Pierre nous dit, vous savez, le Seigneur ne tarde pas comme quelqu'un le pense, comme certains le pensent. Il ne tarde pas. Mais pour certains, il tarde, n'est-ce pas? Il y en a qui ont l'impression qu'il tarde. D'autres, n'est-ce pas, n'ont pas du tout cette impression-là, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur est proche. Il est proche car sa venue surprendra ceux qui ne se sont pas préparés, qui ne se tiennent pas prêts. Sa venue les surprendra comme la venue d'un voleur au milieu de la nuit. Enfin, il arrive alors... en quelque sorte, pour cela, n'est-ce pas, que le Seigneur est comme en avance. S'il se trouve des chrétiens, n'est-ce pas, qui ne se sont pas préparés, qui se sont laissés aller à la mollesse de l'existence présente, n'est-ce pas, se disant, bon, on est sauvés, ça va bien, n'est-ce pas, et puis, distrayons-nous tout de même un peu, n'est-ce pas, et puis, goûtons, et puis, oui, alléluia, les réunions, etc., mais en somme, dans le cœur, y a un petit peu de, une petite lampe, une petite flamme, mais où est l'huile pour alimenter? Alors, si je suis dans cet état, n'est-ce pas, eh bien, le retour du Seigneur, pour moi, sera trop proche. Il aurait mieux valu que le Seigneur revienne plus tard, me laisse plus de temps encore, n'est-ce pas? Et le Seigneur sera tardif, le retour du Seigneur sera tardif pour ceux qui se sont préparés, qui sont prêts et qui sont comme impatients. N'est-ce pas? Comme impatients. Ceux-là sont prêts. Ils voudraient voir tout de suite le Seigneur. Bah, le mieux, c'est d'être avec le Seigneur. Ah, le retour du Seigneur, n'est-ce pas? Ils aspirent. Ils attendent vraiment. Ceux-là, ce sont ceux qui ont déjà maintenant de l'huile, de quoi alimenter leur lampe, n'est-ce pas? Ils tiendront. Alors, c'est dans cette position-là qu'il faut que nous soyons. Voilà le but de la parabole. N'est-ce pas? Et toutes les controverses, et toutes les disputes, les discussions, les catégorisations, n'est-ce pas? Balayez ça, mettez ça dehors, ça n'a rien à voir avec l'enseignement du Seigneur. Amen.